Il est temps pour nous de retrouver la chronique de Vincent Turban. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous, bonjour Eugénie, comment ça va ?
Ben ça va bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, quel est le sujet de cette chronique ?
Le sujet, c'est un album exceptionnel.
Je parie que c'est encore dans les années 70, évidemment.
C'est la meilleure décennie pour la musique.
Ouais. Pour tout, pour tout.
Et c'est vrai aussi, effectivement, c'est sûr, pour beaucoup de choses aussi, oui. Et oui, oui. Donc, c'est un album de musique jamaïcaine, le premier album de reggae international, l'album Catch a Fire de Bob Marley.
Eh bien, on vous écoute, avec plaisir, comme toujours.
Décembre 1971. Après 10 ans de carrière en Jamaïque, les Wailers, Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer sont persuadés que les années de galère sont derrière eux. À cette époque, ils tournent avec le chanteur de variété Johnny Nash et la maison de disques CBS les prend en charge. Terrible désillusion, car le reggae reste une musique marginale et peu connue et le succès espéré n'arrive pas. Sauf pour Nash, qui réussit à percer avec les compositions de Bob, comme Guava Jelly ou Stevie Up. Sans passeport, coincés et fauchés à Londres, les Wailers décident de jouer leur dernière carte en sollicitant le patron des disques Island, Chris Blackwell, par l'intermédiaire de l'attaché de presse, Brent Clark. Cette entrevue donna naissance au projet Catch a Fire, considéré comme le premier album de reggae international. Jusque-là, toute la carrière des Wailers fut une suite d'arnaques et d'exploitations. Malgré la mauvaise réputation de Rude Boy des Wailers, allergique à toute forme de contrat, Blackwell proposa au groupe une avance de 8000 livres, somme considérée comme dérisoire de nos jours, pour rentrer en Jamaïque pour y enregistrer le disque pour le compte d'Island. Les sessions débutèrent au cours de l'année 1972 dans trois studios différents. Pour compléter le line-up des cinq membres des Wailers, la crème des musiciens de Kingston fut employée. Ainsi, Robbie Shakespeare, élève du bassiste Family Man, tint la basse sur Stereo Up et Concrete Jungle. Winston Wright et Tyrone Donny firent des interventions à l'orgue et au piano. Les chœurs sur certains titres étaient chantés par Rita Marley et deux amis choristes, Judy Mowat et Marcia Griffiths, les futurs High Freeze. À partir de cette base rythmique, Marley emporte les bandes et part à Londres pour le mixage final et les overdubs sous la houlette de l'ingénieur Tony Platt et de Chris Blackwell. Pour toucher le public rock, des guitares furent ajoutées par le guitariste des Muscle Shoals, Wayne Perkins, sur Stereo Up, Concrete Jungle et Rocket Baby. Le Texan John Rabbit Bundrick apposa des lignes de clavinette de Fender Rhodes et de synthé Moog sur la quasi-totalité des titres. Chris Karen joua des tablas indiens sur Midnight Rivers. Par rapport au mix jamaïcain, le tempo est légèrement accéléré afin de ne pas déstabiliser le public rock avec le rythme lascif du reggae. Sorti en décembre 1972 en Angleterre et en janvier 1973 aux États-Unis sous le nom de The Wailers, Blackwell présenta le trio vocal comme un groupe de rock noir. Catch a Fire est une dénonciation du système qui opprime le peuple, de l'esclavage et du colonialisme, malgré quelques moments légers et grivois. Cet opus débuta par des ventes modestes, 14 000 exemplaires la première année et une absence de vraie promotion. Mais sur le plan musical, c'est une évolution historique, car il modifia la direction artistique de la musique reggae à tout jamais. La version Deluxe, sortie en 2001, propose la version non mixée de l'album, ce qui permet de découvrir les morceaux sans aucun overdub, avec en prime deux inédits écartés du mix final, la ballade High Tide or Low Tide et le splendide All Day All Night. Deux ans après ce premier coup de maître, le succès et le nom de Robert Nesta Marley sera connu à travers les quatre coins du monde. Yeah.
passe des choses. Qu'est-ce qu'on entend là, Vincent ?
Alors, qu'est-ce qu'on entend ? C'est justement un des morceaux écartés du mix final. C'est le morceau All Day, All Night.
D'accord.
Ça, c'est un inédit, très, 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 très bon morceau.
D'accord.
Ouais.
On retrouve les rythmes, mais c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on connaît.
Exactement.
Bon, apparemment, le disque a aussi un petit problème, ou alors c'est la platine. Mais bon, en tout cas, on a des petits blancs à l'antenne. La musique saute un petit peu, mais...
Oh, c'est tant embêtant, ça.
Ah bah ouais, c'est pas grave. On le repassera. Ricardo fait son maximum, comme d'habitude.
Attention, comme toujours.
Attention.
Non.
Non, mais bon, en tout cas, on a très bien compris. Surtout, le fait que, bon, ça peut paraître de la musique légère, mais pas du tout, en fait. C'est de la musique de dénonciation, évidemment, comme d'habitude.
Voilà, oui. Alors, pour certains morceaux, pour ce qui est de Concrete Jungle, pour ce qui est de Slave Driver, oui. Maintenant, ce qui concerne les morceaux, entre guillemets, plus légers, plus grivois, on peut citer le morceau Steal Eerie Up, avec pas mal de métaphores sexuelles.
Mais oui, mais c'est aussi ça, la révolution. Les années 70, c'est aussi ça.
C'est vrai.
Ça passe aussi par là, la révolution.
Vrai,
mais
vrai,
bon,
c'est vrai.
Ben voilà, tout marche finalement très bien. On entend un très bon morceau, mais on va se quitter là-dessus, alors.
On va se quitter là-dessus, oui. Et je tenais à préciser que Peter Tosh a tenu pour responsable Chris Blackwell. En fait, pour la séparation du groupe, ça, il ne l'a jamais supporté, mais vraiment jamais. C'est pour ça que Peter Tosh a rebaptisé Chris Blackwell, qui en bon français signifie « bon noir », en Christ White Worst.
D'accord, le pire des blancs.
Le pire des blancs.
Voilà, ouais. Bon, ouais. Sympa.
Très sympa, Peter Tosh.
Bon, bah, enfin, ça, c'est un peu leurs histoires aussi. Parce que c'est vrai qu'on peut regretter la séparation du groupe.
Eh ben oui, bah, quand même, en plus, avec 10 ans de carrière, parce que ça, quand même, ne faut quand même pas l'oublier. Hein, il a vraiment été connu au milieu des années 70, mais il avait déjà commencé sa carrière en 1962, hein, Bob.
D'accord.
Donc c'est un parcours de longue haleine et finalement ça finit par payer.
Eh ben ouais, bon, je sais que vous faites de la musique, accrochez-vous hein.
Pas de soucis là-dessus.
Merci Vincent, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.
Merci.